France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour, deux semaines avant le sommet des océans.
Ladies and gentlemen, the ship has reached the shore.
Mesdames et messieurs, le navire a atteint le rivage. C'était le 4 mars 2023, l'annonce à l'ONU de la signature du traité visant donc à protéger la haute mer. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor.
Bonsoir.
Vous êtes ambassadeur des pôles et des océans. On a envie de s'en souvenir de ce moment-là, qui était effectivement un vrai moment historique. Si vous devancez aujourd'hui le sommet des océans qui va s'ouvrir à Nice à partir du 9 juin prochain, troisième conférence des Nations Unies sur les océans, c'est parce que vous n'êtes pas un homme très serein, en fait. Ce fameux traité de haute mer qu'on va détailler dans un instant, signé effectivement par 115 pays. Ça a été une énorme victoire, mais maintenant il faut le ratifier, sinon c'est une promesse de Gascon. Et pour l'instant, il y a 21 pays qui l'ont ratifié. 21, c'est pas beaucoup.
Oui, ça en dit long sur l'énergie des pays. Ce moment était historique, c'était après 20 ans de négociations, la communauté internationale, c'est-à-dire 197 pays, avait négocié un traité pour gouverner ce qui représente en fait la haute mer, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas au pays, c'est-à-dire 64% de la mer et donc 50% de la surface du globe. Donc on décidait de la... Voilà. Et ce 50% de la surface du globe, aujourd'hui, c'est free passage, on fait ce qu'on veut, on pêche comme on veut, on paye rien, il n'y a pas de péage. Et là, en effet, il faut ratifier pour mettre ça en œuvre. Et là, depuis maintenant un an et demi qu'on négocie, on a obtenu en tout et pour tout 21 pays qui ont accepté de signer et de ratifier, donc de rendre possible, et il nous en manque 40. Et on se bat vraiment parfois contre des explications toujours un peu complexes, les parlements ne sont pas prêts, il n'y a pas d'urgence, etc. Or qu'il y a une vraie urgence, et c'est celle-là qu'on veut qualifier et obtenir ces 60 pour pouvoir enfin avoir une mer gouvernée et une mer avec des règles.
Mais du coup, allons-y, les mauvais élèves, c'est qui ? Alors nous, on a signé, et heureusement qu'on a signé, puisque c'est nous qui... On a ratifié.
Oui, on a ratifié, y compris dans des moments un peu complexes d'assemblée qui étaient nouvelles, etc. Les mauvais élèves, c'est beaucoup de gens. C'est d'abord les 10 premières zones exclusives économiques au monde, c'est-à-dire des grands propriétaires. Enfin, la mer, c'est un peu comme une copropriété. C'est comme si, vous voulez, les principaux responsables d'une copropriété décidaient que même s'ils ont le plus grand lot, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie.
Et dans ces 10 premiers, il faut expliquer ce que c'est qu'une zone exclusive, en fait. C'est cette espèce de bande de mer ou d'océan qui est entre les eaux territoriales et les eaux internationales.
La mer, c'est d'une grande simplicité, c'est trois lots. Voilà, c'est une copropriété avec trois lots. Il y a le lot qui est au bord de la piscine, si j'ose dire. C'est-à-dire chacun son petit pliant et on s'installe. Et nous, on a une grande zone exclusive économique. La France, c'est la deuxième. On a 10 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis en ont à peine 11. Et puis, il y a le deuxième lot, c'est le fond de la mer, le fond des océans, les grands fonds marins. Et ça, il y a un autre organisme aux Nations Unies. Et le troisième, c'est toute cette colonne d'eau, la piscine elle-même, en quelque sorte, là où se trouvent les ressources génétiques, beaucoup de ressources halieutiques. Et c'est cette haute mer, donc cette partie-là, qui est libre, qui attend enfin d'avoir une protection, avoir des garants de sécurité aussi, et une pêche durable, et pas de la pêche illicite ou de la surpêche, comme on voit souvent.
Alors, vous avez cité les États-Unis, on va y venir. Vous avez cité la Russie, en Europe par exemple, qui traîne des pieds en Europe ?
Écoutez, on est quand même 27, bon je reconnais que tous les pays ne sont pas littoraux.
Non, mais, enfin, bon, non, là... mais la Hongrie a signé.
Oui, c'est extraordinaire, voilà. De temps en temps, parce qu'on a fait un gros travail diplomatique auprès de M. Orban, il a signé, et des grands pays, j'attends l'Italie, on attend l'Allemagne, on attend la Belgique encore, on attend plein de pays encore qui ne sont pas au rendez-vous. Non, il y a la moitié des Européens. Alors ça, le ministre Barrot appelle tous les jours, le président de la République appelle ses homologues, pour leur dire, ratifiez quand même, c'est une décision qui ne coûte rien et qui surtout va assurer non seulement l'avenir de vos petits-enfants, mais la vôtre, là, demain.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que si c'est si compliqué, c'est parce que ces fameuses zones, elles sont disputées en fonction de chaque pays, quel est l'eau, comme vous dites, qui appartient à qui et dans quelle proportion, et donc chaque pays n'est pas d'accord sur les zones à protéger et leur emplacement, c'est aussi ça qui fait freiner beaucoup.
Oui, parce qu'il y a en effet quelques débats et quelques contestations de zones économiques exclusives, notamment en Asie, mais ce n'est pas de bonne raison. La bonne raison, c'est vraiment que tout simplement, le politique politiciens ne voient pas le monde à au-delà d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois ou d'une année. Et là, on est en train de rater un traité majeur, aussi important que le traité de l'Antarctique. Vous savez, l'Antarctique, en pleine guerre froide, on a signé un traité qui a protégé, un grand moratoire pour protéger une partie géniale de cette calotte glaciaire.
Est-ce que l'autre problème, c'est pas justement Donald Trump, qui effectivement ne va pas ratifier, qui de toute façon n'est signataire de rien à la base, mais qui lui a décidé, c'était très récemment, c'était le 24 avril dernier, de lancer l'exploitation des fonds marins. Est-ce que le problème, c'est pas que les autres se disent, mais attendez, si les États-Unis y vont, on va pas leur laisser toute l'exploitation sans rien faire, donc on n'y va pas non plus. Qui entraîne l'autre dans cette histoire?
Donald Trump, il a annoncé en effet qu'il allait faire quelque chose d'illégal, parce qu'on n'a pas le droit. Comme mais si on dit, je vais aller dans ton jardin, je vais aller ramasser...
Mais du coup, les autres pays se disent, attendez, s'il le fait, je ne vois pas pourquoi je vais m'en
embarrasser. C'est un appel à une liberté qui s'appelle l'illégalité, tout simplement. Les grands fonds marins, vous savez, c'est tous les scientifiques l'ont prouvé, avec des rapports hyper sophistiqués. Aller fouiller les grands fonds marins, qui sont des puits de carbone, c'est augmenter le carbone qui va être dans l'atmosphère. On va déjà très mal entre nous. 4 degrés, on les a en 2100. Donc, aller chercher des minerais dont on n'a pas besoin aujourd'hui, pour lesquels il n'y a pas de modèle économique, mais juste annoncer qu'on va gagner 100 milliards de dollars, ce qui, entre nous, n'est pas vrai, et qu'on va créer 100 000 emplois pour aller
tout seul. Parce qu'on n'en sait rien.
Seul, en fait, on n'en sait absolument rien.
Mais il n'y a, pas que ça. Alors, il y a l'idée, effectivement, que Donald Trump, il y va de toute façon sans rien demander à personne. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais il y a aussi le fait qu'on traverse une période où peut-être aussi poussés par les États-Unis, ont beaucoup décomplexé tous les discours anti-scientifiques, tous les discours qui disent la biodiversité, on verra ça une autre fois, puis de toute façon tout ça n'est pas très sûr. Il y a aussi tout ça qui joue en ce moment, on a l'impression qu'il y a quand même une conjonction de facteurs qui vous sont particulièrement défavorables.
Cette conférence des Nations Unies a tout de suite pensé que le grand acquis de cette conférence, comme ça c'est 10 ans après les accords de Paris, donc on veut faire pareil pour l'océan, ce qui a été fait pour le climat, c'est la science. On va sortir des instruments formidables qui vont vous permettre à vous, journalistes, et à tout un chacun de pouvoir mesurer le baromètre de l'océan. Tous les ans, Starfish, on va avoir plein d'éléments, un jumeau numérique de l'océan. Mais ces outils scientifiques, s'ils ne sont pas reconnus en effet par un ensemble de pays, ça ne servira à rien. Néanmoins, on a déjà près de 65 chefs d'État et de gouvernement qui vont être là, autour du berceau de l'océan à Nice. Donc je pense quand même que, y compris certains climato-sceptiques, vont se ranger à la raison, d'abord parce que leurs enfants leur disent de faire gaffe, et parce que 75% de l'humanité vit au bord d'un littoral aujourd'hui.
Vous l'avez dit, 167 pays, on espère effectivement une grosse cinquantaine, peut-être entre 55 et 60 chefs d'État
plus, au gouvernement. Ça monte tous les jours.
Voilà, il va y avoir 30 000 délégués, c'est énorme. On a envie effectivement de transformer ça derrière, c'est un peu le but, en une COP océan qui doit venir derrière. Si ce traité n'est pas ratifié, si c'est un échec...
Non, mais on va se battre.
Voilà, qu'est-ce que ça nous raconte? Et puis aussi, Olivier Pavard-Davoire, c'est aussi un échec pour Emmanuel Macron, qui a donné de sa personne, c'est ça que ça veut
dire. C'est le seul qui se bat, pour être franc. C'est le seul qui a d'ailleurs demandé l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un voyage, là, il part bientôt au Vietnam et dans d'autres pays où il ne fait pas ce travail-là. Non, d'ici l'année 2025, je coupe ma tête si c'est le cas, on verra. Oui, absolument, je vous apporterai ma tête.
D'ici l'année 2025, ça veut dire qu'on est sûr de ne pas l'avoir là. On n'ouvre pas le sommet en disant, mesdames, messieurs, on a 60 signatures.
On va demander une prolongation, c'est-à-dire ça peut exister, si jamais on n'avait pas les 60 le 9 juin. On va demander une prolongation d'exercice jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir avoir en tant que Français la possibilité d'avoir ces 60 pays. Et je vous assure qu'on fera tout, on mettra ensemble tous nos ambassadeurs et ambassadrices qui se mobilisent pour avoir ce traité qui permettra quand même que la surface du globe soit enfin protégée. Pendant que d'autres s'intéressent à Mars, ce qui ne sert à rien entre nous dans les voitures électriques, nous, on veut lancer une grande mission Neptune, une grande mission d'exploration de cet océan qui est à la fois des merveilles, des solutions, plein de belles choses.
Mais est-ce que ça ne dit pas que le sommet s'ouvre sur un échec? Parce qu'il y a le traité, bien sûr, mais à quoi ça sert, de parler de surpêche, de parler des chaluts, de parler de tout ça, si de toute façon... Personne n'a... Enfin, en tout cas, il n'y a pas assez de monde pour avoir ratifié le traité.
Non, vous savez, à la dernière COP, la dernière UNOC, il y avait 10 chefs d'État. Là, il y en a 70. C'est que la chose est sérieuse. Le grand mérite des annonces de Donald Trump, y compris sur le Groenland, ou sur le canal de Panama, c'est que ça dramatise la chose. C'est que l'océan, les gens s'en foutaient largement. C'est la troisième UNOC, alors qu'il y a 30 COP climat. Et aujourd'hui, ça devient un vrai enjeu stratégique. C'est un enjeu, en effet, pour nous, les Européens. Pour la première fois, l'Europe va présenter un plan européen pour l'océan, qui va être un très beau blue deal. Donc, il y a des très bonnes nouvelles. Mais celle-là, il faut qu'on la gagne, en effet. Et quoi qu'il en soit, nous aurons, à la fin, les accords de Nice pour l'océan, qui seront, je pense, aussi importants que ceux de Paris pour le climat. Si certains ne respectent pas, tant pis pour eux.
Mais pardon, sur la surpêche, par exemple, et sur ceux qui réclament une interdiction, même, de certains types de pêche sur certaines zones, pour protéger non seulement seulement la diversité, la biodiversité, mais aussi certains poissons. Qu'est-ce que ça dit si on signe quelque chose autour de la pêche à partir du moment où, de toute façon, on ne s'est pas mis d'accord sur les zones, on ne s'est pas mis d'accord sur, sur la haute mer?
Bien d'accord avec vous.
Qu'est-ce qu'on va en faire?
On vient d'obtenir un accord historique sur la décarbonation du transport maritime. C'est-à-dire que tous
Par exemple,
90% du commerce qui passe par cette haute mer va être décarboné en 2050. C'est prodigieux. Mais en effet, s'il n'y a personne pour le vérifier, si on n'a pas de gendarmes de cette haute mer, ça ne servit à rien. C'est pour ça qu'on va se battre. Mais vous savez, dans le fond, parfois, on se demande à quoi servent les diplomates. Alors, ils servent à Gaza, ils servent en Ukraine, ils servent partout. Mais ils servent aussi sur les affaires globales. Et dans le fond,
c'est
moi,
votre métier, vous êtes ambassadeur des pôles et des océans. Vous n'êtes pas un peu diplomate quand même, Olivier Poivre d'Arvor?
Je suis un peu diplomate, oui, mais ça sert à quelque chose, vous allez voir. Et Laurent Fabius, en 2015, avec tout le Quai d'Orsay a fait, et Jean-Noël Barrot, aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, se battent comme des chiens pour obtenir cet accord. Et si on l'obtient, je vous assure que nos enfants, mais nous-mêmes, nous serons très fiers de cette diplomatie active bleue.
Mais c'est ça dont on rêvait, en fait, pour le mois de juin. C'était le même coup de marteau que celui de Laurent
Fabius.
Pour
tout Fabius, vous dire, le marteau est prêt. Le petit marteau bleu est prêt. Mais si on ne donne pas le coup de marteau le 9 juin, je vous assure qu'avant la fin de l'année, Emmanuel Macron le donnera, parce que quand on veut quelque chose d'aussi simple et d'aussi important pour la génération qui vient, on met tous les moyens nécessaires.
Les scientifiques et les ONG se réunissent un peu avant le sommet,
oui,
à Nice, avec le One Ocean Science Congress. Et eux, ils vont la faire, cette déclaration commune.
Ne vous inquiétez pas.
Et voilà, est-ce que vous avez le sentiment que ça booste aussi les pays?
Ce qui est formidable, si vous l'avez compris, les pauvres scientifiques américains qui ont été interdits de traverser l'Atlantique, c'est qu'il y a une mobilisation extraordinaire. Ils sont écoutés. Les organisations non gouvernementales, y compris celles qui parfois nous critiquent, elles font un travail magnifique aussi pour alerter l'opinion. Je crois que l'océan, c'est en tout cas une très belle cause, c'est notre bien commun, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre pour le défendre, et puis il y a surtout beaucoup de populations qui en vivent. On vit grâce à l'oxygène, on vit grâce à toutes les ressources. Donc, je vais essayer de revenir le 9 juin avec des bonnes nouvelles dans ce studio tout rouge, qui sera tout bleu pour l'occasion.
Écoutez, vous êtes le bienvenu. Alors nous, on a une journée spéciale, c'est le 3 juin, donc
absolument.
Si vous pouviez revenir un peu avant, parce que vous avez déjà des bonnes nouvelles.
On va essayer, 3 juin, 45 ratification.
Écoutez, chiche, les paris sont ouverts. Olivier Poivre d'Arvor, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fabienne.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. C'est au nord des îles Shetland, avec un nouveau site de lancement pour fusées et donc satellites. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Népal, une ascension express et polémique de l'Everest.
Le monde à 18h50, c'est vous, Louise Baudet. Bonsoir, Louise.
Bonsoir, Fabienne. Pourquoi l'Europe, enfin presque toute l'Europe, se verrouille et accélère les expulsions des déboutés du droit d'asile vers des pays qui leur sont inconnus?
Et le cinéma en VO depuis Cannes. Bonsoir, Corinne Pellissier.
Bonsoir. Cette année, il n'est pas en compétition et c'est bien dommage. Le dissident russe Kirill Serebrennikov adapte le livre d'Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele, et c'est très réussi.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la playlist de France Inter avec une vieille connaissance ce soir, les Wet Legs, Catch These Fists sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
me, I just wanna dance with my friends.
Le reportage ce soir vous emmène dans les îles Shetland, tout au nord de l'Angleterre, au-dessus de l'Écosse, à laquelle d'ailleurs elles appartiennent. Les Shetland, c'est surtout des moutons, des poneys, en plus des 20 000 habitants. Et depuis peu, c'est aussi un site de lancement de fusées. Le Kourou des Shetland s'appelle Saxavord. Il doit devenir un symbole pour la Grande-Bretagne et aussi pour l'Europe, qui se positionne de plus en plus sur le marché du spatial. Et le reste, c'est Thomas Arms qui raconte.
Un premier tir a eu lieu l'été dernier, mais s'est soldé par l'explosion de la fusée. Mais qu'à cela ne tienne, sur place, l'installation du spatioport génère de l'espoir. Anna travaille au salon de thé de Haroldswick, le commerce le plus au nord du Royaume-Uni et le dernier avant le pas de tir.
Je pense que c'est une bonne chose pour la région. Cela va créer plus d'emplois et cela pourrait nous amener un peu plus de tourisme, ce qui serait bénéfique. Sur une île comme celle-ci, on est toujours un peu suspicieux vis-à-vis de la nouveauté, mais il faut juste s'habituer à ce qui est nouveau.
Autour du port spatial, autorisé à opérer depuis décembre 2023 par les autorités britanniques, l'activité tourne encore au ralenti. Ce n'est pas toute l'émulation que l'on voit sur d'autres sites de lancement dans le monde, comme à Boca Chica au Texas, d'où est tiré SpaceX par exemple. Mais l'île a perdu des emplois avec la fermeture d'une base de l'armée de l'air. Alors les 632 habitants espèrent des retombées économiques du spatioport, comme Trevor Spence qui vient de donner à manger à ses poneys.
Au début, je pensais que c'était une très bonne idée. J'ai une entreprise de construction et on a du travail. Mais vous savez, il y a eu des problèmes d'argent. Trop peu de gens du coin travaillent sur le site. Il faudrait qu'il y en ait plus.
Ce qui inquiète également les habitants, c'est la question de l'organisation des tirs. Car une zone d'exclusion de 58 km² autour du spatioport va être mise en place les jours de lancement. Lynn Thompson voit depuis sa fenêtre les limites du spatioport.
Quand on a été consulté, on a demandé que faire quand on habite dans une zone d'exclusion et qu'il y a un lancement. On vous enverra un bus et vous irez dans un centre de loisirs. Mais les gens qui travaillent de chez eux, ceux qui sont malades et ont du matériel médical lourd chez eux, tout ça devra aller dans le bus et au centre de loisirs. Pour combien de temps? 5 heures? Toute la journée? Pour y passer la nuit? Y aura-t-il des compensations?
Aujourd'hui, le principal lanceur de fusées en Écosse est une entreprise allemande. Sur les 30 tirs prévus chaque année, Rocket Factory Augsburg prévoit d'en faire 10, soit à peu près un par mois. Et pour Jonas Kellner, chargé du marketing pour la firme allemande, le choix des Shetland est logique.
Le spatioport Saxavord se trouve tout au nord des Shetland et c'est l'endroit parfait pour lancer des satellites sur des orbites polaires. L'avantage de ces orbites polaires, c'est que dans un laps de temps assez court, le satellite peut survoler n'importe quel endroit au-dessus du globe, ce qui est très utile pour l'observation terrestre, pour surveiller le changement climatique, des projets de construction ou pour l'analyse de systèmes de transport. En ce sens, Saxavord est extrêmement bien placé.
Quand on pense conquête spatiale européenne, on pense automatiquement à Kourou en Guyane. Mais les entrepreneurs spatiaux européens affirment qu'il n'y a pas de concurrence entre les sites de lancement. Jonas Kellner.
Pour nous, il n'y a pas de concurrence. Nous souhaitons utiliser les deux. D'abord, les Shetland pour nos vols d'essai, mais aussi plus tard, décoller depuis la Guyane. Nous avons trouvé un accord avec Kourou pour envoyer des satellites plus haut en orbite ou pour des tirs de satellites d'agences européennes de recherche.
Car c'est en orbite que se jouent les communications du futur, la surveillance et de nombreuses avancées et découvertes scientifiques. C'est aussi un véritable marché. En 2024, il y a eu 261 lancements orbitaux, mais quand l'an dernier les États-Unis ont réalisé 150 lancements, l'Europe en a fait 3 ou 4. Alors, selon l'Agence spatiale européenne, cette émergence des ports spatiaux comme Saxa-Vord est salutaire. Elle permet de renforcer le poids stratégique et l'autonomie de l'Europe. Et l'engouement du secteur privé devrait permettre émulation et innovation dans le secteur orbital.
Thomas Harms pour le reportage. À très vite, l'actualité internationale passée sous les radars. C'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord au Mexique que nous sommes, Kevin, touchés par un nouvel attentat.
Oui, comment appeler autrement l'assassinat en plein jour, en pleine rue, en pleine heure de pointe de deux proches collaborateurs de la maire de Mexico. C'est ce qu'il s'est passé hier matin dans la capitale. Juste avant 8h, heure locale, un homme s'approche d'une voiture conduite par la secrétaire personnelle de Clara Brugada, Jimena Guzman. Il tire à travers le pare-brise avant de viser José Muñoz, conseiller de la maire qui s'apprêtait à monter dans ce même véhicule. Il a ensuite pris la fuite à pied. Il n'a toujours pas été arrêté. À travers ce double assassinat, c'est toute la gauche mexicaine qui semble visée. Les deux victimes étaient membres de Morena, le parti de la maire, et surtout de la présidente de la République, Claudia Sheinbaum, qu'on entendait ici, qui promet la justice dans cette affaire. Les hommes et femmes politiques et leurs collaborateurs sont régulièrement pris pour cible au Mexique en raison de leur action contre les cartels. Avant de devenir présidente, Claudia Sheinbaum était maire de Mexico sous son mandat, le nombre d'homicides a drastiquement baissé.
Un narco gato.
Et nous voici au Costa Rica avec un drôle de chat.
Un narco gato ou narco michi. Michi, c'est comme ça qu'on appelle les chats dans certains pays d'Amérique latine. Un petit chat gris et blanc a été interpellé, peut-on dire, dans une prison de Pococí alors qu'il se promenait sur le mur d'enceinte. Les surveillants ont dû grimper pour l'attraper et là, il découvre, scotché autour de son petit corps, un sachet de 230 grammes de cannabis et un autre de 70 grammes de crack. Les détenus ne manquent donc pas d'inventivité pour faire passer de la drogue en prison, mais enfin, un chat, ça fait quand même globalement ce que ça veut. Hein. Donc, aurait-il vraiment atteint la bonne cellule pour effectuer sa livraison ? Ça, on ne le saura jamais.
Allez, nous sommes au Népal où s'est déroulée une ascension express.
7 jours pour quitter Londres, grimper au sommet de l'Everest et rentrer à Londres. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font 4 alpinistes britanniques en ce moment. 4 anciens soldats des forces spéciales, dont Alistair Carnes, actuel secrétaire d'État chargé des anciens combattants dans le gouvernement de Keir Starmer. Ils ont atteint le toit du monde ce matin après avoir quitté la capitale britannique vendredi. Alors comment est-ce possible, sachant qu'il faut normalement passer environ 2 mois sur les pentes de l'Everest pour s'acclimater à l'altitude avant de tenter d'atteindre les 8849 mètres. Eh bien, les 4 alpinistes ont utilisé une méthode controversée en faisant chez eux, au Royaume-Uni, des séances d'inhalation de xénon, un gaz qui favorise la production d'érythropoïétine, une hormone que l'on connaît tous sous le nom d'EPO, considérée comme dopant dans de nombreux sports. L'EPO très présente dans le cyclisme des années 90, ça booste la production de globules rouges qui portent l'oxygène dans le sang, oxygène qui se raréfie au fur et à mesure que l'on grimpe. Beaucoup dénoncent un coup de pub, hein, dangereux qui plus est, puisque l'Union internationale des associations d'alpinisme affirme qu'il n'existe aucune preuve que le xénon améliore les performances en montagne. Cette mission avait un but caritatif, l'équipe espère donc rentrer à Londres dès vendredi. Et puis un petit mot pour vous dire que face à la polémique, le ministre de l'Agriculture japonais a démissionné ce matin, on en parlait hier dans cette même chronique. Il s'était vanté de recevoir gratuitement du riz en pleine crise des prix de cet aliment de base au Japon.
Voilà, c'est sûrement grâce ou à cause de vous.
Sans doute.
Kevin, absolument.
On peut nous écouter jusque-là.
Allez, à demain, vous partez en passant par la Floride, Kevin, où est née Alison Mosshart. C'est aussi la chanteuse et la guitariste du groupe The Kills. Elle est en solo avec It Ain't Water. À tout de suite.
It's late, getting later, later on. Have you faith? It ain't water. Table and become my own stranger.
Alison Mosshart, It Ain't Water sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Louise Baudet.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Louise, l'Europe qui se claquemure, nouveau durcissement annoncé de la politique migratoire des 27, effet de l'ère du temps politique ou changement de paradigme. Vous nous expliquez pourquoi l'Europe forteresse n'est pas une fatalité pour tout le monde.
Oui, cela va vite pourtant. Un an à peine après son adoption, le pacte Asile et Migration est déjà en voie de péremption, musclé par la Commission européenne sous la pression des États membres. Bruxelles propose de faciliter les expulsions des demandeurs d'asile vers des pays où ils ne sont jamais allés et avec lesquels ils n'ont aucun lien. Cette révision du concept de pays tiers sûr ouvre la voie à des accords comme ceux imaginés par le Danemark ou le Royaume-Uni avec le Rwanda. La commission incite aussi à créer des hubs de retour, à l'image des centres ouverts en Albanie par l'italienne Giorgia Meloni. Et Bruxelles a établi une liste de pays qu'elle juge sûrs, dont la Tunisie, le Maroc ou l'Inde, fermant de fait la porte aux demandeurs d'asile venant de ces pays.
Et ça répond à une demande des États membres.
Oui, Danemark, Autriche, Italie en tête, rejoints par la France et l'Allemagne. Ils représentent toutes les régions d'Europe et leurs gouvernements vont de la droite dure au centre-gauche. Ils appellent à un changement de paradigme sous la pression politique des extrêmes droites qui font de la question migratoire un levier électoral puissant et qui monte partout en Europe. Les élections dimanche dernier en Pologne, en Roumanie et au Portugal l'ont encore montré.
Ça veut dire que sur l'immigration, l'extrême droite a remporté la bataille culturelle.
Bah, ça y ressemble, hein. Et le cas du Danemark est à ce titre éclairant. Le pays scandinave a mis en place en 20 ans un dispositif anti-immigration parmi les plus restrictifs du continent. Dans un consensus politique quasi total, l'extrême droite n'est pas au pouvoir à Copenhague, mais sur le sujet migratoire, c'est tout comme. Permis de séjour raccourci, voire révocable, accès difficile à la nationalité, saisie des biens dès l'arrivée, politique assumée par les sociodémocrates au pouvoir depuis 6 ans pour regagner l'adhésion populaire et stopper l'extrême droite.
Et pourtant, le Danemark, Louise, a besoin de main-d'œuvre étrangère, comme d'autres d'ailleurs.
Oui, le tour de vis s'accompagne d'une certaine hypocrisie. L'Europe vieillit, elle a besoin de main-d'œuvre pour financer les retraites, s'occuper des personnes âgées ou tout simplement occuper les emplois dont les locaux ne veulent pas. Le Danemark est très demandeur de main-d'œuvre, notamment asiatique, dans la santé ou le soin aux personnes. Le Hongrois Viktor Orban a créé des filières de migration économique, les travailleurs invités, pour remplir ses usines. L'Italie de Giorgia Meloni a ouvert en début d'année dernière 450 000 titres de séjour aux travailleurs étrangers sans en faire une grande publicité.
Et dans ce paysage, il y a un pays qui assume le besoin de main-d'œuvre étrangère, c'est l'Espagne.
Oui, l'Espagne, exception européenne à plus d'un titre. Son économie se porte bien, son Premier ministre est socialiste et il assume de dire que l'immigration est une chance. Le gouvernement de Pedro Sanchez s'apprête à régulariser près de 500 000 migrants afin d'officialiser une économie souterraine qui génère des pertes fiscales importantes. Et puis, Pedro Sanchez l'affirme, son économie a besoin des 700 000 immigrés entrés ces 3 dernières années sur le marché du travail, dans l'agriculture, l'hôtellerie ou la construction. Discours pour le moins original sur la scène politique européenne.
Louise Baudet, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et on file à Cannes. Nous attend Corinne Pellissier.
Moteur.
France Inter.
And Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Voilà, on l'aime bien, la petite musique qui nous rappelle qu'on est à Cannes chaque mercredi. Grâce à vous, Corinne, vous avez vu hier soir l'adaptation de La disparition de Joseph Mengele par le russe Kirill Serebrennikov, un grand habitué du festival, hein, Corinne. Il nous raconte ici la fuite en Amérique du Sud d'après la Seconde Guerre mondiale de ce criminel nazi qui était l'un des plus recherchés de l'histoire. Le livre d'Olivier Guèze, dont il s'inspire, avait reçu en 2017 le prix Renaudot. Il y a une BD aussi adaptée. Pour le théâtre également. Bref, un classique ultra attendu. Et vous n'avez pas été déçue, Corinne.
Oui, il aurait même fait un excellent candidat à la Palme d'Or s'il avait été en compétition. Bien meilleur, je trouve, que l'adaptation du Limonov d'Emmanuel Carrère qu'on avait trouvé l'année dernière un peu sage dans l'incarnation, un peu trop romantique aussi. Le cinéaste qui a un faible cinéma pour les bad guys place cette fois-ci son regard au bon endroit avec un film noir vraiment glaçant sur l'un des pires criminels du XXe siècle, celui qu'on appelait à Auschwitz l'ange de la mort, responsable d'expériences innommables sur les détenus dans les camps, incarné incarné avec beaucoup de justesse dans le film par l'acteur allemand Auguste Diehl, méconnaissable, hein, qui change de peau au gré des nouvelles vies, des identités que s'invente au fur et à mesure le docteur Mengele pour échapper à la justice. On va le suivre au Paraguay, en Argentine, au Brésil, jusqu'à son dernier souffle à 79 ans. Il est mort sans jamais avoir été jugé, ce qui a donné au comédien un vrai cas de conscience, Auguste Diehl, qui nous confie avoir beaucoup réfléchi avant d'avoir accepté le rôle.
C'est un film qui a été pour moi très difficile à faire. J'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer. Je n'étais pas sûr car je ne voulais pas offrir une tribune à l'incarnation du mal, car Mengele n'est qu'un exemple. Des gens comme lui, on en a vu des tonnes. Et ils existent encore beaucoup aujourd'hui, se développant à la faveur de la guerre, d'un système chaotique ou déshumanisé. Aujourd'hui, par exemple, nous ne savons pas encore qui sont les Mengele de la guerre d'Ukraine ou de Gaza, mais l'histoire le dévoilera. Et c'est ça qui m'a fait entrer dans le film. Le fait de me dire que ces types-là n'ont que leur bouche, rien d'autre, et qu'ils sont voués à disparaître en même temps que le système qui les a créés. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien à dire, ils ne créent rien. Donc, en réalité, ils ne sont rien. Ils sont faibles et nous ne devrions pas les craindre.
Et c'est une expérience, Corinne, visiblement, qui ne laisse pas non plus indemne le spectateur.
C'est un film dérangeant, c'est clair déjà sur le fond. Il faut avoir envie d'entrer dans ce cerveau malade, d'envisager les choses de son point de vue. Kirill Serebrennikov partage avec lui, c'est un hasard, l'expérience de l'exil. C'est une trajectoire qui résonnait forcément avec la sienne. Mais il n'y a absolument aucune empathie envers le personnage. C'est un film qui est fait pour choquer, pour dénoncer, pour nous mettre en garde dans une période troublée où des figures comme celle justement de Joseph Mengele ont vite fait d'émerger.
Par rapport à Mengele, on a des raisons fondamentalement différentes qui nous ont fait déménager dans un autre pays, et ne serait-ce que le fait que moi je n'ai pas à me cacher. Pour être honnête, je n'ai pas pensé qu'à l'exil. Je pense surtout à la fin de la guerre et à ce qui va se passer une fois que la guerre que nous connaissons sera techniquement finie. Est-ce que ceux qui ont initié cette guerre seront également châtiés? Que va faire la justice? Le monde pourra-t-il continuer si les crimes contre l'humanité qui sont aujourd'hui commis ne sont pas châtiés? Quel sera le système de la vengeance? Il ne faut pas oublier que la mémoire est courte et que si pour nous ça nous paraît tout à fait évident qu'il ne faut pas tuer son prochain, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des gens qui se disent que si on a un but géopolitique, on peut quand même se permettre de tuer des gens. Si on a une mission historique à remplir, on peut même tuer beaucoup de gens. Et la vie n'est plus la valeur suprême. C'est ça qui est angoissant. C'est ce côté où on a perdu cette assurance-là. Or, je pense qu'il faut rappeler aux gens que le mal est toujours à côté et qu'on peut même devenir soi-même partie prenante du système répressif.
Et puis, il y a la forme très radicale, hein. C'est un peu la marque de fabrique du cinéaste qui ose dans le film une séquence absolument insoutenable dans le laboratoire de Joseph Mengele à Auschwitz, quasiment un film dans le film, tourné en couleur à la manière d'une vidéo Super 8, là où tout le reste du film est en noir et blanc, et une scène qui nous montre de manière très crue, là où souvent les cinéastes de la Shoah ont préféré suggérer filmer hors champ, et bien le produit de toutes ces expériences. C'est un parti pris culotté qui va choquer les spectateurs qui iront voir le film au moment de sa sortie. Il n'y a pas encore de date annoncée.
Merci beaucoup Corinne, en attendant donc la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, présenté en Cannes en avant-première. Merci beaucoup. On reste ensemble évidemment, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, avant le démarrage de Roland Garros, on s'autorise un peu de nostalgie avec les bons vieux McEnroe Borg. On se demande si la génération des années 2000, Federer, Nadal, Joko, nous a fait autant rêver. Et puis on se met peut-être au padel aussi.
Oui, l'année de mon bac, c'était la finale d'Henri Lecomte face à Mats Wilander. Il a perdu en 3-7 et j'ai eu mon bac sans gloire. Grégory sur WhatsApp veut bien qu'on parle du padel et du pick and ball, mais il veut qu'on n'oublie pas le beach tennis. Ah. Autre sport de raquette rattaché également à la Fédération de tennis.
On se demande comment ça rebondit
il
sur le sable.
Il est clin d'œil. Bah oui.
Ouais, bah 01 45 24 7000 pour nous expliquer comment ça rebondit sur le sable et pour discuter avec nous. C'est le même chemin par WhatsApp.